Ceci est un agenda. Comment choisir l'agenda idéal? Peut-être vous vous posez cette question début janvier ou au mois de septembre quand il faut acheter un nouvel agenda. Peut-être avez-vous votre agenda dans votre smartphone, donc vous ne vous posez pas la question de savoir quel est l'agenda idéal. Comment choisir l'agenda idéal? C'est la question d'un article que j'ai trouvé sur un site internet dédié à l'emploi et qui nous donne quelques conseils pour savoir comment choisir le bon agenda. Cet article dit « Vous n'avez pas l'âme d'un planificateur, un bon agenda est la solution idéale. Celui-ci vous évitera de manquer une deadline ou un rendez-vous et diminuera votre niveau de stress. » Donc si vous êtes un peu stressé dans la vie, c'est peut-être parce que vous n'avez pas le bon agenda. Avec un agenda qui vous convient parfaitement, le succès sera à portée de main. Formidable, hein ? Si vous vous rendez dans une librairie, vous serez submergé de calendriers et d'agendas. Il est très tentant de choisir un exemplaire avec une couverture attrayante ou une belle mise en page. Grâce aux 6 conseils ci-dessous, vous parviendrez à choisir un agenda convenant parfaitement à votre personnalité. Parce qu'évidemment, si vous n'avez pas un agenda qui correspond à votre personnalité, vous risquez de moins réussir votre vie. Et donc, cet article nous donne un certain nombre de conseils sur la réflexion à avoir, sur l'agenda dont on a vraiment besoin. Réfléchissez à ce que vous comptez écrire dans votre agenda. On nous donne des conseils sur la mise en page. Est-ce qu'on va planifier loin dans le futur? Est-ce qu'on va l'utiliser seulement pour le travail, mais aussi pour noter les rendez-vous personnels, les rendez-vous médicaux, etc. Est-ce qu'on va choisir un agenda petit ou bien un agenda plus grand, mais pas forcément très transportable? On nous dit que cet agenda est notre nouveau meilleur ami. On nous dit, vos amis sont des personnes sur qui vous pouvez compter. Votre agenda doit vous procurer ce même sentiment. Est-ce qu'on a un seul agenda ou est-ce qu'on a 2 agendas? Un pour la vie personnelle, un pour le travail. Et enfin, on nous conseille d'aimer notre agenda, le bon agenda qui nous convient réellement. Bon. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Apprendre à connaître Jésus-Christ ». On pourrait dire d'ailleurs « Avoir la foi en Jésus-Christ », puisque c'était le thème de cette première partie de culte. Ou « Comment inscrire nos rendez-vous dans l'agenda de Dieu ?» Donc « Apprendre à connaître Jésus-Christ » ou « Comment inscrire nos rendez-vous dans l'agenda de Dieu ?» Je reprends ce matin notre série de prédications de l'Évangile selon Marc. Marc qui nous dit dès le premier verset de son Évangile « Voici comment a commencé la bonne nouvelle, l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Et nous découvrons progressivement dans l'Évangile selon Marc comment Jésus nous démontre qu'il est le Christ, le Messie, le Roi, celui que Dieu a envoyé pour sauver son peuple. Comment il est ce Jésus, le Fils de Dieu. Et nous étions restés la dernière fois dans le chapitre 6, au moment où Jésus a envoyé ces 12 apôtres en mission. Et nous reprenons la lecture ce matin au moment où les apôtres, ces 12 disciples de Jésus, reviennent de mission. Et nous allons lire donc dans Marc au chapitre 6 à partir du verset 30 et jusqu'à la fin du chapitre au verset 56. Donc Marc chapitre 6 verset 30 à 56. Lisons ensemble ce texte. Je vous invite à lire avec la Bible que vous avez sous les yeux. Sinon, vous pouvez simplement écouter la lecture. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Alors Jésus leur dit : Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. Il y avait effectivement beaucoup de monde qui allait et venait, et ils ne trouvaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque et allèrent à l'écart dans un endroit désert. Mais beaucoup de personnes les reconnurent, les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les bourgades, tous les villages, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Ainsi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse. Il fut pris de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et alors il se mit à les enseigner longuement. Il se faisait des attards, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Et Jésus leur répondit « Vous, donnez-leur à manger. » Ils lui demandèrent « Faut-il que nous allions acheter pour 200 pièces d'argent de pain et que nous leur donnions à manger ?» Jésus reprit « Combien avez-vous de pain ? Allez vous renseigner. » Ils allèrent voir et revinrent lui dire « Il y a 5 pains et 2 poissons. » Alors, il ordonna à ses disciples de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Les gens s'installèrent par terre par rangées de 100, de 50. Jésus prit les pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction et partagea les pains. Puis il donna les morceaux aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tout le monde mangea à sa faim. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5000 personnes, 5000 hommes. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après avoir congédié la foule, Jésus se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, la barque se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer parce que le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser, mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et ils se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, Jésus se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. » « N'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans la barque et le vent tomba. Ils en furent frappés de stupeur. Car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth où ils amarrèrent leur barque. Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Ils lui amenaient les malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout où il se rendait, dans les villages, les villes, les campagnes, on lui apportait les malades sur les places publiques et on le suppliait de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Jusque-là, notre lecture pour ce matin. Quel agenda, quel emploi du temps dans ce passage, n'est-ce pas? On a l'impression d'un chassé-croisé d'activités, de rendez-vous prévus, manqués, imprévus. C'est incroyable. Alors je vous propose de regarder ce texte en trois temps. On va regarder d'abord l'agenda des disciples. Ensuite, on va regarder l'agenda de Jésus. Et puis, dans un troisième temps, on va essayer de réfléchir sur l'agenda idéal dont je parlais tout à l'heure. Premièrement, donc, l'agenda des disciples. Les disciples rentrent de mission, verset 30. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. On les avait laissés la dernière fois avec quelques consignes que Jésus leur avait données. Et puis au chapitre 6, verset 7, donc Jésus qui appelle les douze et qui les envoie en mission deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Et ensuite Jésus leur donne des consignes pour cette mission à laquelle il les envoie. Et en quoi consiste la mission des apôtres? Verset 12 du même chapitre. Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Et maintenant qu'ils reviennent vers Jésus, ils ont envie de raconter tout ce qu'ils ont vécu et de rendre compte à Jésus de leur expérience. On peut même se demander s'ils n'ont pas pris un peu la grosse tête, parce que Jésus leur dit « Vous allez venir avec moi à l'écart et vous allez vous calmer un peu. » Mais c'est vrai que quand on rentre de mission, il y a des missionnaires, des gens en mission parmi nous. Il y a une effervescence émotionnelle. Je relisais un extrait de la vie du missionnaire Hudson Taylor. Et il écrit en 1855, vous voyez, ça date un peu, hein, après un de ses voyages à l'intérieur de la Chine, il dit, par exemple, « Nous avons vu quelques malades, puis nous sommes partis pour la côte avec des livres à distribuer, des livres chrétiens. » Après en avoir donné dans la petite ville de Kiantu, nous avons visité un grand nombre de villages et mis la parole de Dieu entre les mains de tous les maîtres d'école que nous avons pu voir. De retour au bateau à 6 heures du soir, j'ai vu différents malades, puis nous sommes partis avec la marée. Toute la journée en me rendant de lieu en lieu, fatigué et trempé de sueur, j'étais rafraîchi par la pensée que le Seigneur Jésus s'était certainement trouvé souvent dans le même cas, car il parcourait aussi un pays chaud. » Voilà quelques phrases qui nous montrent un petit peu l'agenda de Hudson Taylor, qui lui aussi avait beaucoup d'activités, et qui a les yeux tournés vers Jésus en mission. Peut-être les jeunes, quand vous êtes rentrés de Teen Street, même les adultes, vous vous souvenez, le premier Teen Street ou le Teen Street de l'année dernière. Quand on rentre d'un moment fort vécu avec Dieu et avec d'autres chrétiens, eh bien, on a envie de tout raconter aux autres et de partager ses expériences. Et c'est ce que les disciples font ici, avec Jésus. Et puis Jésus leur dit, on va aller se reposer un peu à l'écart. Alors ils suivent Jésus à l'écart pour passer du temps avec lui et tout lui raconter. Mais la foule, qui n'est pas très loin, les reconnaît, notez ce mot, les reconnaît. Donc Jésus et ses disciples, peut-être parce que justement ils sont allés en mission un peu partout là, et les gens commencent à les connaître. C'est peut-être un peu la reconnaissance médiatique liée à leur mission. Ils deviennent un peu populaires aussi. Et la foule les reconnaît et les devance ou les précède sur l'autre rive, là où ils doivent débarquer. Et puis ensuite, c'est Jésus qui entre en scène, et on retrouve les disciples au verset 35 qui viennent demander à Jésus de renvoyer la foule. Cette foule qui les a devancés, qui peut-être a pris un peu leur place. Pourquoi ? Parce qu'il se fait tard et que les gens vont avoir besoin de manger. Un mot qui revient plusieurs fois dans notre texte. Peut-être les disciples ont-ils faim eux aussi. Peut-être les disciples attendent-ils toujours leur temps de repos seuls avec leur maître. Ils viennent donc dire à Jésus quoi faire selon leur agenda. Et là, Jésus leur répond quelque chose qui n'était pas prévu dans leur emploi du temps. Il leur dit, c'est vous qui allez donner à manger à la foule. Alors ils se demandent s'ils doivent eux-mêmes aller acheter la nourriture. Non, non, vous allez faire avec ce que vous avez. 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 hommes. Peut-être qu'on n'a pas compté les femmes et les enfants, donc ça fait peut-être 10 000 personnes. Et là, l'agenda ou la mission des disciples prend quand même une drôle de tournure. les voilà maintenant devenus agents de sécurité et placés dans l'organisation d'un pique-nique géant sans nourriture. Imaginez un peu la fête de l'humanité à la Courneuve sans saucisses grillées. Voilà. Jésus opère un miracle, on va y venir tout à l'heure quand on regardera l'agenda de Jésus. Et on retrouve les disciples maintenant éboueurs. Ils ramassent les restes. Il y a 12 paniers de restes. Peut-être le chiffre correspond-il au nombre d'apôtres qui doivent ramasser les déchets. Et là, je me dis, qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête des disciples à ce moment-là? Il y a de quoi être déconcerté quand même. Et au verset 52, qui est un petit peu le verset clé de ce passage, Marc nous dit que les disciples n'avaient pas compris ce qui se passait. Les disciples ne comprennent pas ce qui se passe. Ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, au sujet de cette multiplication des pains. Marc nous dit que leur intelligence était aveuglée. C'est le brouillard, ils ne comprennent rien. On va revenir tout à l'heure à ce verset. Prochaine étape dans l'agenda des disciples, on retrouve les disciples au beau milieu du lac ou de la mer de Galilée, sans Jésus, qui est resté tout seul à terre. Et là, les disciples rament. Ils rament dans tous les sens du terme, à mon avis. Ils rament pour gagner l'autre rive parce que le vent leur est contraire, donc ça veut dire qu'ils ont rentré la voile, puisqu'ils doivent aller dans une direction et le vent pousse dans le sens contraire, donc ils ont rentré la voile, ils ont sorti les rames et ils rament contre le vent. Et puis ils rament évidemment au sens figuré parce qu'ils ont probablement l'impression que leur agenda, au moins leur agenda du jour, leur échappe un peu. Et ce n'est pas fini. Ils sont pris de panique en voyant Jésus passer à pied à côté d'eux. Et là, même après que Jésus soit monté avec eux et que le vent soit tombé d'un seul coup, ils sont encore bouleversés. Jésus leur refait le coup de la tempête apaisée. Il a été mention de ce texte dans Matthieu. On le lit aussi dans Marc, au chapitre 4, versets 35 à 41, où lors d'une tempête, là cette fois Jésus était dans la barque, les disciples réveillent Jésus et Jésus parle à la mer et au vent et leur dit de se calmer, il se fait un calme plat, ce qui est impossible. Jésus opère donc à ce moment-là un miracle et de nouveau ici, le vent tombe d'un seul coup. Et enfin, dans la fin de notre texte, lorsque tout ce beau monde arrive de l'autre côté de la rive, les gens reconnaissent Jésus et pas les disciples. Et les disciples, dans les derniers versets de notre passage, à partir du verset 54, disparaissent de la scène. On ne parle plus alors que de Jésus. Et c'est vers Jésus que les gens de la région convergent pour amener tous les malades. Et c'est sa mission à lui, Jésus, et plus celle des disciples, qui reprend le devant de la scène. C'est pas évident quand même. N'est-ce pas pour les disciples de Jésus dans ce passage? En l'espace de quelques heures, les disciples passent du tout feu, tout flamme de leur mission, peut-être de leur succès, en tout cas à leurs propres yeux. Ils ont envie de raconter tout ce qu'ils ont fait et enseigné à Jésus. Et en plus, ils ont été en mission dans la région natale de Jésus. Et là, ils connaissent une certaine popularité. Et donc, ils passent de cette mission populaire à un anonymat complet de l'autre côté du lac, alors qu'ils ont accosté dans la région où habite Pierre, vers Capernaum, et où ils sont censés être connus. C'est un peu le monde à l'envers. Dans la région où Jésus a grandi, les disciples commencent à être connus, sans doute à cause de tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Mais quand ils rejoignent la région nord du lac, là où Pierre, Jacques et Jean habitaient, les gens ne s'intéressent qu'à Jésus. Après avoir été sous le feu des projecteurs pendant un moment, les disciples retournent dans l'ombre des coulisses. Alors que dans leur agenda, ils avaient prévu d'avoir Jésus pour eux tout seuls, le déroulement de la journée ne suit pas du tout leur prévision. Cela nous arrive aussi, parfois, peut-être souvent. Non pas seulement que notre agenda soit chamboulé parce que nous avons beaucoup de choses à faire et qu'il y a des imprévus, mais aussi parce que nous n'arrivons pas à mettre Jésus dans notre planning. Pourquoi ? Eh bien, parce que Jésus a son propre agenda. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, l'agenda de Jésus dans ce texte. Nous avons commencé au verset 30, au retour des apôtres de mission. Eh bien, entre le moment où Jésus a envoyé les 12 en mission et leur retour, nous avions lu la dernière fois le récit de la mort de Jean-Baptiste. Et ces questions autour de l'identité de Jésus, et même le roi Hérode qui se demande si ce Jésus n'est pas le fantôme de Jean-Baptiste. Il y a deux histoires de fantômes dans tout ce chapitre 6 de Marc là. On peut imaginer que Jésus a été affecté par la mort de Jean-Baptiste, dernier prophète de l'ancienne alliance, mais aussi son cousin. Peut-être Jésus a-t-il lui aussi envie et besoin de se reposer à l'écart dans un endroit désert. Alors il prendra un temps seul, nous allons en reparler. Mais lorsqu'il dit à ses disciples, « Allez, venez, on va aller à l'écart dans un endroit désert », les choses là aussi ne se passent pas comme c'est prévu. Et ce qui me frappe dans tout ce texte, dans cette journée, et dans la suivante aussi, c'est la disponibilité de Jésus. Peut-être vous avez remarqué ça. Jésus accueille ses apôtres à leur retour de mission, alors que lui-même a peut-être envie de faire autre chose. Jésus emmène ses disciples seuls à l'écart. Quand il débarque, Jésus voit la foule, non pas comme un imprévu à gérer en râlant, mais comme, vous l'avez vu, des brebis qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire des gens qui ont faim et soif de nourriture et de boisson, mais aussi de la parole de Dieu. Et Jésus a compassion de ces gens. C'est un mot important ici dans ce texte. Jésus a compassion de ces gens et se met à les enseigner longuement, nous dit Marc. C'est-à-dire que Jésus n'a pas expédié ces gens parce qu'il avait autre chose à faire. Jésus a pris soin de ces personnes-là. Cela faisait partie de son agenda ce jour-là. Là où les disciples avaient peut-être espéré un enseignement efficace, 3 points, une petite heure, 3 quarts d'heure de prédication, et puis on passe à autre chose, eh bien Jésus, lui, prend le temps qu'il faut pour s'occuper de la santé spirituelle de cette foule de gens. Il s'occupe aussi de leur nourriture physique. Regardez bien. C'est Jésus qui dirige les opérations de l'organisation et du déroulement de la multiplication des pains. C'est Jésus encore qui demande aux disciples de se renseigner sur les pains disponibles. C'est Jésus qui leur donne la responsabilité de faire asseoir les gens par groupe pour faciliter la distribution. C'est Jésus encore qui prend les pains et les poissons pour les partager. C'est Jésus qui prie le Père Céleste. C'est Jésus qui donne les pains à partager à ses disciples pour qu'ils les distribuent. C'est Jésus qui prend toutes les initiatives et qui dirige toutes les opérations dans ce texte. Et quelle scène, quel miracle ! Peut-être une référence aussi à ce que, en son temps, Élie a fait auprès de cette veuve et où le pain a été multiplié, l'huile a coulé dans un moment de famine physique, les gens n'avaient pas à manger, mais aussi de famine spirituelle. Eh bien, Jésus fait bien au-delà de ce que Jésus a fait pour une pauvre veuve en Israël à ce moment-là. Il fait cela pour tout son peuple en abondance. Jésus est là un nouvel Élie. Quel miracle et quelle générosité! Et ce n'est pas fini. La disponibilité de Jésus. On peut imaginer qu'après avoir enseigné pendant des heures et opéré ce miracle, Jésus est un peu fatigué. Que fait-il? Il pousse ses disciples à embarquer parce qu'il veut lui renvoyer la foule. Il aurait pu le demander à ses disciples, mais il les ménage, il leur dit « Allez, c'est moi qui vais m'en occuper. » Quelle disponibilité là de Jésus. Et enfin, après tout cela, Jésus se retire seul sur la montagne pour prier, verset 46. Jésus a aussi besoin de passer du temps dans l'intimité avec son Père Céleste. Parce que son agenda, Jésus, il est bien rempli, n'est-ce pas? Ici, c'est après une journée bien chargée que Jésus prend ce temps seul à l'écart. Au chapitre 1 et au verset 35, c'était le matin, je relis ce verset. Le lendemain, bien avant l'aube, donc il fait encore nuit, Jésus se leva et sortit. Il alla dans un lieu désert pour prier. Jésus nous rappelle ici par son exemple et aussi par l'enseignement qu'il nous donne dans le sermon sur la montagne et que nous méditons cette année, que nous avons besoin d'intimité dans la prière avec notre Père Céleste. Dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 6, il nous dit « Toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre, dans ta pièce la plus reculée, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Et ton Père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. » Un petit moment de calme pour Jésus. Mais quelques heures plus tard, Jésus rejoint ses disciples qui sont en train de ramer contre le vent. Et deuxième miracle du jour, le vent tombe lorsqu'il entre dans la barque avec ses disciples. Dernière scène à partir du verset 53. On voit encore la disponibilité, la générosité, la compassion de Jésus. Avec cette conclusion, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Je ne sais pas combien d'heures Jésus a dormi cette nuit-là, mais c'est un emploi du temps bien chargé. Quel contraste entre l'emploi du temps, l'agenda des disciples et l'agenda de Jésus. Tout se passe dans ce texte selon la direction de Jésus. Sans surprise, mais avec une grande générosité, une grande disponibilité. Là où les disciples semblent voir leur agenda leur échapper, nous voyons que Jésus maîtrise parfaitement son agenda. Premièrement, il prend soin de la foule, il les enseigne généreusement et il les nourrit avec ses pains et ses poissons généreusement. Jésus prend aussi soin de ses disciples, il marche sur l'eau pour les rejoindre dans leur détresse. Vous remarquez au passage, hein, marcher sur l'eau c'est impossible hein, pour un être humain, n'essayez pas. C'est un miracle, ici Jésus fait quelque chose d'extraordinaire. Il défie dans son miracle là, les lois de la nature, les lois naturelles de la gravitation. Alors je vous invite à vous demander, parce que c'est un petit peu la question qu'on trouve tout au long de cet évangile de Marc, pourquoi Jésus y arrive-t-il? Alors que pour nous c'est impossible. Pourquoi lui? Si on croit le témoignage des gens qui nous rapportent cet événement. Donc Jésus prend soin de la foule, Jésus prend soin de ses disciples, et troisièmement, Jésus prend soin des malades, en guérissant tous ceux qui viennent à sa rencontre pour le toucher. Marc nous dit, toucher ne serait-ce que le bord de son vêtement. Et peut-être, cette formule vous rappelle quelque chose. Qui avons-nous déjà rencontré dans cet évangile qui a touché le vêtement de Jésus, le bord du vêtement de Jésus, et a été guéri? Marc, chapitre 5, versets 25 à 34, nous allons juste relire quelques versets. Donc un chapitre avant, Marc, chapitre 5, alors que Jésus est en chemin pour guérir une petite fille qui a 12 ans, et qui est mourante, dans la foule se trouve une femme atteinte d'une hémorragie depuis elle aussi 12 ans. Marc chapitre 5 verset 24. On nous dit que cette femme a été soignée par de nombreux médecins, qu'elle y a passé sa fortune et qu'elle va plus mal qu'avant. Et puis au verset 27, elle entend parler de Jésus et dans la foule elle s'approche de lui par derrière et elle touche son vêtement, en se disant, si j'arrive à toucher ne serait-ce que ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demanda, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, eh oh, tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché? Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Donc Jésus sait qui l'a touché. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, on a parlé de la foi tout à l'heure, hein, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Eh bien, les gens qui viennent voir Jésus et qui touchent le bord de son vêtement semblent être dans la même démarche que cette femme. Même si Marc ne mentionne pas explicitement dans notre texte d'aujourd'hui la foi de ces personnes qui viennent toucher Jésus. Qu'est-ce que nous constatons ? Arrêtons-nous quelques instants au point où nous en sommes arrivés dans ce texte, dans cette prédication. Nous voyons deux agendas dans notre texte. D'un côté, celui des disciples, agenda basé sur leurs priorités, et cet agenda ne fonctionne pas comme prévu. Et puis, Jésus vient à leur secours, parce que dans cet agenda qu'ils pensaient maîtriser, ils rament complètement. Et de l'autre côté, l'agenda de Jésus, qui lui, fonctionne parfaitement, parce qu'il poursuit sa mission centrée sur les personnes qu'il doit sauver et secourir. Qu'est-ce qu'on fait de ce constat? Est-ce que ces deux agendas, celui des disciples et celui de Jésus, fonctionnent de manière autonome? Ou bien, et si ces deux agendas fonctionnent de manière autonome, à quoi sert l'agenda des disciples? Parce que c'est quand même Jésus qui les a envoyés en mission. Est-ce que leur mission à eux ne sert à rien? Non. Alors, comment articuler ces deux agendas? Et si on peut les articuler, comment? Est-ce qu'il faut les mettre l'un sur l'autre? Est-ce qu'il faut les fusionner? Alors, est-ce qu'il faut faire rentrer l'agenda de Jésus dans l'agenda des disciples? C'est pas très pratique. Est-ce qu'il faut faire rentrer l'agenda des disciples dans l'agenda de Jésus? Ça n'a pas l'air très pratique non plus. Quel est l'agenda idéal? Ce sera le troisième et dernier point de notre prédication. Dans tout ce passage de Marc 6, nous voyons donc ces deux agendas. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces deux agendas ne collent pas. Regardez, c'est quand même évident que ça ne colle pas entre les disciples et Jésus. Ils veulent passer du temps avec Jésus pour faire leur débriefing missionnaire. Et Jésus leur dit, et dégonflez un peu le melon là, on va se reposer, vous allez vous reposer. Donc ils partent se reposer, mais quand ils arrivent à terre, la foule leur passe devant. C'est ça le mot. Les devances les précèdent. La foule leur passe devant. Et la foule prend toute l'attention et le temps de Jésus. Ni les disciples, ni Jésus ne se reposent, ni ne mangent. Mais ils se mettent au service d'hommes et de femmes qui ont besoin, eux aussi, de nourriture terrestre et de nourriture spirituelle. Le repos doit attendre. Quand enfin arrive l'heure de faire partir la foule, parce qu'il faut que les gens aillent manger, les disciples se disent « Chouette, on va enfin avoir notre moment tout seul avec Jésus !» Eh bien, à ce moment-là, Jésus les oblige, Marc nous dit, les force à partir en barque, sans lui. Et lui va renvoyer la foule. Rendez-vous manqué entre Jésus et ses disciples encore. Et en plus, Jésus a besoin, lui aussi, de se retrouver seul. Et voilà de nouveau les disciples qui rament au milieu du lac. Jésus les voit en difficulté et les rejoint. Mais remarquez ce petit détail. Jésus ne les rejoint pas pour monter dans la barque avec eux. Marc nous dit, il voulait les dépasser. C'est Jésus qui leur passe devant, cette fois-ci, c'est pas la foule. Jésus les rejoint en marchant sur l'eau, truc de dingue, mais pas pour remonter dans la barque avec eux, pour les dépasser et pour les attendre sur le rivage. Pourquoi Jésus monte-t-il dans la barque? Parce que les disciples, qui déjà ne comprenaient et ne maîtrisaient plus grand-chose, croient voir un fantôme. Et là, ils sont troublés au point que ils ne savent plus où ils en sont avec Jésus. Et ils ne savent plus quoi penser de Jésus. Et ils se mettent à penser comme Hérode. Un fantôme. C'est les questions que se posait Hérode, le roi Hérode, mauvais roi Hérode. Qu'on avait vu l'exemple de l'Israélite qui se comporte comme un non-juif, un païen, un non-chrétien. Et là, Jésus, semble-t-il, discerne quelque chose d'important et il fait, au lieu de dépasser ses disciples, il les rejoint et il monte dans la barque avec eux. Mais avant, vous avez vu ce qu'il leur dit ? Aussitôt, nous dit Marc, donc aussitôt que les disciples se mettent à crier parce qu'ils croient voir un fantôme, Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » C'est pas un fantôme, c'est moi, c'est bien moi. Il y a un moment de panique profond là, chez les disciples. Et Jésus voit cette panique profonde et vient au secours des disciples, non seulement parce qu'ils rament contre le vent, mais parce qu'ils rament aussi contre le vent de leurs questions sur l'identité de Jésus. Vous vous souvenez, lorsque Jésus avait calmé la tempête précédente, les disciples se disaient, Marc chapitre 4, verset 41, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Et cette question ne les avait pas du tout rassurés. Ils étaient plus terrorisés après que Jésus ait calmé la tempête qu'avant. On retrouve un petit peu la même situation ici. Ils sont dans la confusion en ce qui concerne Jésus et son identité, son œuvre, son agenda. Ils ne comprennent rien à l'agenda de Jésus. Parce qu'ils ont le nez sur leur agenda à eux. Ils n'ont pas compris encore, ça viendra après la résurrection. Ils n'ont pas compris encore qui est vraiment celui qui a multiplié ses pains. Celui qui vient vers eux en marchant sur l'eau. Celui qui guérit tous ces gens qui viennent vers lui. Et là, pour la première fois, les disciples se retrouvent seuls avec Jésus à l'écart de la foule. Le moment de repos tant attendu pendant toute cette journée arrive enfin dans cette barque au beau milieu du lac qui a retrouvé son calme. C'est là le moment de calme, quand Jésus monte dans la barque et que le vent tombe. Le voilà, le moment calme entre Jésus et ses disciples. Mais pas celui que les disciples avaient imaginé et où ils allaient raconter tous leurs exploits pour que Jésus soit fier d'eux. Non, le repos arrive quand Jésus monte dans la barque, alors que les disciples sont en panique, et non pas parce qu'ils sont fiers de leur prouesse personnelle. Là, ils ne sont pas fiers. Hein. Ils sont complètement à la ramasse. Alors, le vent tombe à l'arrivée de Jésus, parce que c'est ce Jésus-là à qui le vent obéit et qui peut multiplier les pains. C'est ce Jésus-là qui monte dans la barque de nos détresses, de nos intelligences obscurcies ou aveuglées, pour nous conduire à bon port. Les disciples font ici la douloureuse expérience qu'ils ne peuvent pas mettre Jésus dans leur agenda. Ça, ça ne marche pas. Et ça ne fonctionne pas. Mais que leur agenda est dans les mains de Jésus. Et ils nous emmènent, ces disciples, de nouveau avec eux, dans des questions sur l'identité de Jésus. Qui est-il, celui-ci, à qui le vent obéit? Qui est-il, celui-ci, qui multiplie des pains alors qu'il a à sa disposition seulement 5 pains et 2 poissons? Qui est-il, celui-ci, qui guérit tant de malades? Pourquoi fait-il cela, lui, et pas nous? Pourquoi Jésus agit-il comme ça et sans nous? Pourquoi Jésus agit-il ainsi de sa propre autorité de Fils de Dieu? Marc chapitre 1, verset 1. La réponse que je donne à cette question ce matin, c'est: Jésus agit sans nous parce qu'il agit pour nous. Jésus agit sans nous parce qu'il agit pour nous. Les disciples se retrouvent ici dans la même attitude qu'Hérode, je le disais tout à l'heure, en ce qui concerne la foi en Jésus. Ils doivent apprendre qui est vraiment Jésus, le Fils de Dieu, celui qui va non seulement multiplier les pains, mais mourir sur la croix pour nous, pour que Dieu pardonne nos péchés, pour que Dieu nous aide à ne pas regarder seulement à notre agenda, à notre nombril, à notre orgueil, mais à Christ, mort pour nos péchés et ressuscité. Voilà l'agenda de Jésus. Et les pains multipliés, les vents qui tombent, les guérisons accordées sont autant de signes qui annoncent la générosité de Dieu à la croix envers les hommes pécheurs. En Jésus-Christ, Dieu a eu compassion de nous, comme on le voit dans ce texte, avoir compassion de cette foule. En Jésus, Dieu vient au secours de nos barques en détresse, et sa présence nous rassure. Alors, pas toujours tout de suite, comme les disciples, mais il veut nous rassurer. On a parlé tout à l'heure de la foi comme assurance des choses qu'on espère. C'est bien de cela dont il s'agit. La clé de la foi ou de la vie chrétienne est donc celle-ci. Il nous faut inscrire nos activités dans l'agenda de Jésus. Vous voyez, c'est pas mettre notre agenda dans l'agenda de Jésus. C'est transposer ce qui est écrit dans notre agenda dans cet agenda-là. J'aurais pu le faire là, avec un stylo là. Vous notez tous vos rendez-vous de la semaine là. Et c'est Jésus qui doit piloter tout cela. La priorité, c'est l'agenda de Jésus, et notre agenda doit s'aligner sur l'agenda de Jésus. Ce n'est pas ou l'un ou l'autre, ou une fusion, une confusion des deux, mais c'est l'agenda de Jésus comme modèle pour notre agenda. C'est lui le maître, et nous, nous sommes ses disciples. Alors, quelques pistes pratiques pour cette semaine. Notez vos rendez-vous dans votre agenda et transposer ces rendez-vous dans l'autre agenda, celui de Jésus. Priez pour vos rendez-vous de cette semaine. Priez pour vos rendez-vous médicaux. Priez pour vos rendez-vous professionnels. Priez pour vos rendez-vous avec tel frère ou telle sœur de la communauté. Ce ne sont pas seulement des cases remplies dans votre agenda. Ce sont aussi des cases remplies dans l'agenda de Christ, qui est votre maître et qui vous conduit cette semaine. Vos rendez-vous de cette semaine sont peut-être des occasions de témoignage. Priez pour ces rendez-vous. Vos rendez-vous de cette semaine sont peut-être des occasions d'aider ou d'aimer votre prochain, d'avoir vous aussi compassion de ce que Dieu met sur votre route cette semaine. Les imprévus qui seront là par rapport à vos rendez-vous de cette semaine ne sont pas forcément des obstacles à votre agenda, mais des événements déjà prévus dans l'agenda du Seigneur. Et ces imprévus sont à regarder avec reconnaissance, ce qui est difficile, et sagesse. Je ne comprends pas pourquoi ma voiture tombe en panne cette semaine et que j'ai une facture de 500 euros de réparation. Mais je te fais confiance. Je te fais confiance que tu vas pourvoir à mes besoins et je te fais confiance que tu vas venir me rejoindre dans cette détresse. Montre-moi ce que je dois dire ou ce que je dois faire dans une telle situation. Plusieurs parmi nous ouvrent 15 jours dans leur agenda de vacances scolaires. Quel est le repos que Jésus a prévu pour vous dans ces 15 prochains jours? Pas seulement dans cet agenda-là, mais aussi dans celui-là. Nous voyons aussi, Jésus nous le rappelle, l'importance des moments de prière à l'écart, au calme, dans le flot des activités de la semaine qui s'annonce. Pour réaligner notre agenda sur l'agenda du Christ et garder la bonne direction. Souvenons-nous, et je terminerai par là, que nous aussi, lorsque nous ramons au sens propre comme au sens figuré, Jésus est sur le rivage en train de prier pour nous. Lorsque nous ramons dans nos difficultés et que nous voyons les difficultés de notre agenda, Jésus, lui, est sur le rivage et il est en train de prier pour nous. Et ensuite, il nous rejoint dans la barque de nos détresses pour nous dire « Rassure-toi, c'est moi. N'aie pas peur. » Nous allons prier. Seigneur, tu as vu nos activités et nos préoccupations de cette semaine. Tu connais aussi parfaitement celles qui viennent la semaine prochaine. Seigneur, aide-nous à inscrire tous nos rendez-vous de cette semaine dans ton agenda. Aide-nous à te laisser diriger nos agendas. Tu connais nos vies à chacun, tous les détails de nos vies et tous nos rendez-vous de cette semaine. Apprends-nous à mieux te connaître et à passer du temps avec toi cette semaine pour pouvoir vivre cette semaine selon ta volonté. Et non seulement selon nos rendez-vous, nos prévisions et nos priorités. Transforme nos priorités selon ta volonté, pour que dans cette semaine, nous puissions te donner toute la gloire. Et c'est dans le nom de Jésus qui est mort pour nos péchés, pour que nous soyons plus en détresse dans nos barques. C'est dans son nom à lui que nous te prions. Amen.